17h à Niamey. Messieurs, mesdames, merci de suivre les programmes du studio Kalangou, le journal de ce 30 septembre 2021. Comment prévenir les conflits entre communautés qui exploitent des ressources naturelles partagées? Les journalistes et animateurs de la région de Tillabéri réfléchissent sur le sujet. À suivre les détails dans ce journal. L'espace médiatique nigérien vient de s'agrandir avec le lancement hier de la radio Jeunesse Sahel à Niamey par le G5 Sahel. L'objectif est de permettre à la jeunesse de cet espace de partager les bonnes pratiques de lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Quelle est la différence entre la facture certifiée nouvellement introduite au Niger par les services des impôts et celle dite classique? À suivre la réponse dans la partie magazine. Hawa Mamana au micro. L'exploitation des ressources naturelles partagées est souvent source de conflits, alors comment éviter les affrontements entre communautés? C'est à cela que planchent les journalistes et animateurs des médias de la région de Tillabéri pour deux jours dans le chef-lieu de région. Akasser Alfazaz, point focal du projet qui organise la rencontre, explique au micro de Abdoulaye Mamoudou.
L'utilisation des ressources naturelles au Niger est souvent source de conflits qui occasionnent des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Donc c'est pour cette raison que nous avons choisi comme cible les animateurs des radios publiques et privées pour qu'ils utilisent leurs canaux de communication, leurs organes de presse pour sensibiliser les populations et les communautés sur les comportements et attitudes à tenir en cas de conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. En ouvrant, par exemple, une plage ou bien une émission au niveau de la radio et télévision pour continuer cette sensibilisation des populations pour prévenir les risques de conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles.
95.8 FM, c'est la fréquence de la nouvelle radio Jeunesse Sahel lancée hier à Niamey par le G5 Sahel. Ce média sera un outil qui permettra à la jeunesse de cet espace de communiquer et surtout de partager leurs bonnes pratiques en matière de lutte contre l'extrémisme violent, la radicalisation, la promotion de l'entrepreneuriat, a indiqué Aliou Oumorou, président du Conseil national de la jeunesse du Niger. Il est au micro d'Olivier Assogbavi.
Cette radio va être implantée dans les 5 pays du G5 Sahel. Je pense que c'est un instrument important parce que la radio est l'un des outils de communication les plus suivis dans nos populations qui sont à 80% rurales, qui n'ont pas accès forcément à l'énergie, à l'électricité pour accéder à certaines plateformes. Nous pensons que la radio va jouer son rôle et surtout, l'avantage c'est qu'on a toujours décrié le fait que c'est des radios ou des chaînes de l'Europe, souvent de l'Amérique, qui nous informent de ce qui se passe dans notre espace. On pense que c'est indéniable, puisque le traitement de l'information, souvent, certains le font de leur intérêt. Ce n'est pas forcément ce que nous, on veut faire savoir au monde entier que ces médias occidentaux diffusent. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons voulu avoir cette radio qui parlera d'entrepreneuriat, qui parlera de culture, qui parlera de toutes les questions, tous les mots qui minent la jeunesse du G5 Sahel.
Comment aider les malades mentaux à s'insérer dans le système éducatif? C'est pour trouver des pistes de solutions que 22 enseignants du département de Baleyara sont en formation de 3 jours du 29 septembre au 1er octobre à la mairie de Tagazar. Nuhu Garba, formateur, explique les modules qui seront dispensés au micro de Seydou Abdou Widinta.
Ce sont des directeurs d'école et des enseignants qu'on forme sur comment s'occuper des élèves malades mentaux. Tout le monde peut se retrouver dans cet état, grand comme petit. Donc nous sommes en train de les outiller afin qu'ils puissent mieux s'occuper des enfants qui éventuellement vont se retrouver dans cette situation et puis les enseigner. Ensuite, comment s'en sortir d'une situation difficile soi-même en tant qu'enseignant. Nous intervenons dans 11 villages de Baleyara et dans chacun de ces villages, nous avons fait venir un directeur d'école et son adjoint pour participer à cette formation de 3 jours, donc 22 participants au total, pour qu'à la fin, ils puissent s'en sortir en cas d'éventuelles difficultés. Nous avons vu des gens qui avaient des problèmes mentaux, mais aujourd'hui, ils se portent bien puisqu'ils ont été assistés. C'est la négligence qui complique leur situation, rien d'autre.
L'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, UCPO, se fixe comme objectif d'avoir 13 millions de femmes utilisatrices des méthodes contraceptives d'ici 2030 dans les 9 pays francophones de l'espace CEDEAO, membre du partenariat de Ouagadougou. C'est à l'issue de la rencontre régionale sur l'impact de la crise humanitaire sur la planification familiale qui a pris fin ce jour à Niamey. Mariba, la directrice générale de l'UCPO, de déclarer que des approches sont en cours afin d'atteindre l'objectif. Elle est au micro de Habibou Garpa.
Ce nouvel objectif de 6,5 millions de femmes additionnelles pourra être réalisé, mais c'est là que c'est extrêmement important de pouvoir inclure et agrandir notre communauté et de pouvoir inclure justement toutes ces femmes qui sont dans des contextes de crise ou dans des milieux extrêmement reculés. Alors justement, on a commencé avec cet atelier, en tout cas pour la planification familiale en contexte de crise, mais nous avons aussi commencé à développer une stratégie pour l'engagement avec la société civile, parce qu'on sait que c'est eux qui sont au plus près des populations et donc qui ont énormément de retours et qui ont énormément d'influence aussi. L'implication des leaders religieux. D'un pays à l'autre, leur influence est différente. Faire en sorte qu'ils comprennent notre combat, qui est un combat pour la femme. C'est l'implication également des jeunes, qui est extrêmement importante. Cette nouvelle génération, je pense que dans les pays du PO, à peu près 60 à 65% de nos populations ont moins de 25 ans. Donc de pouvoir les inclure dans ces stratégies-là. On pense vraiment qu'avec ces différentes portes d'entrée, on pourra atteindre cet objectif ambitieux.
À Maradi, la situation agricole de la dernière décade du mois de septembre donne 40% des cultures qui ne sont pas en maturité. La direction régionale de l'agriculture note aussi les attaques des ennemis de culture. Pour le directeur régional de l'agriculture, Suleymane Hassan, il est déjà enregistré 341 villages à risque de déficit alimentaire sur les 2673 villages agricoles que compte la région. Il est au micro de Mohamed Maman.
À la date du 30 septembre 2021, nous sommes à 60% de taux de couvert végétal qui est à maturité, ce qui est quand même acceptable parce que jusqu'à présent, on arrive à enregistrer quelques pluies et Inch'Allah, d'ici peu, les 40% restants vont boucler leur cycle. On note la persistance aussi toujours de la chenille mineuse de l'épi des milles. Selon la dernière situation qui est celle du 31 août 2021, nous avions 341 villages sur les 2673 villages agricoles qui comptent la région de Maradi, qui sont des villages à risque, qui peuvent avoir des productions très faibles. Ces villages-là, ils sont répartis dans 29 communes sur les 47 qui comptent la région. Et les populations qui seraient affectées par cette situation sont au nombre de 497 447 personnes.
Les eaux de la Komadougou Yobé, un affluent du lac Tchad, sont d'une couleur noirâtre cette année selon les populations riveraines. Ces eaux ont pour conséquence la mort des poissons. Le président du syndicat des vendeurs de poissons de Difa attire l'attention des parents pour ne pas laisser les enfants fréquenter ces eaux. Madou Ibrahim au micro de Guidi Abdraman.
Les eaux qui sont arrivées ces derniers jours, nous les appelons Tchilum. Les eaux noires, depuis 4 à 5 ans, font leur arrivée dans la région de Difa. Et ce sont ces eaux qui causent des dégâts dans les champs. Les eaux de cette année ont changé même de couleur par rapport aux précédentes. Les eaux de cette année ont une couleur comme le café. Elles tuent les poissons dans la Komadougou. Nous n'avons jamais vu ça. Aussi, l'eau qui tue les poissons dans la Komadougou ne peut pas épargner l'être humain. Et même si elle ne tue pas, elles peuvent engendrer d'autres conséquences sanitaires. Nous conseillons les parents des enfants de ne pas laisser leur progéniture aller s'amuser dans ces eaux. Nous souhaitons même que les agents de la santé viennent analyser ces eaux pour savoir s'il n'y a pas un poison qui peut entraîner des conséquences sur l'être humain, que nous le disent afin d'éviter une propagation.
Pour éviter la propagation du choléra qui sévit dans la région et d'autres maladies, les autorités communales de Dosso ont organisé une campagne de salubrité et de curage de caniveaux. Hamidou Ganda, le responsable du service hygiène, eau et assainissement de la commune, explique la démarche au micro de Nana Hadiza Hassan.
On a pensé à curer ces caniveaux pour permettre à l'eau pluviale d'être drainée directement. On a même entrepris ce qu'on appelle la sensibilisation pour un changement de comportement favorable à la santé. Nous avons entrepris aussi une campagne d'assainissement de la ville en ce qui concerne la gestion des déchets solides. On passe de quartier en quartier, la commune, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment un pour assainir la ville, pour mieux être dans la ville, tout pour lutter contre ces maladies-là. Le choléra, le paludisme. Les dispositions, nous avons passé des messages pour prévenir la population, l'hygiène au niveau donc des points d'eau, sur la consommation de l'eau potable. Ce que nous attendons de la population, c'est vraiment un accompagnement, parce que la commune aujourd'hui ne peut pas tout faire.
L'introduction de la facture certifiée au Niger par les services des impôts soulève des questions au niveau des opérateurs économiques qui sont concernés et quelles sont les entreprises exemptées. Hassan Kalla est expert en injection du changement aux impôts. Il explique au micro d'Olivier Assogbavi.
Ces entreprises sont exemptées parce que la loi permet au directeur général des impôts d'accorder des dérogations à un certain nombre d'entreprises vu la spécificité de leur activité. Parce que les entreprises ont des activités spécifiques qui ne leur permettent pas de délivrer des factures certifiées pour l'instant. Il y a entre autres ceux qui relèvent de l'impôt synthétique sauf les importateurs et les exportateurs. Il y a les agriculteurs, les éleveurs qui commercialisent leurs produits en état. Je prends l'exemple d'un éleveur qui vend son lait à une entreprise agroalimentaire qui se trouve peut-être en brousse, hors de la ville, ne sait même pas écrire souvent afin de délivrer une facture certifiée. Il en est de même une sorte circulaire qui liste les documents tenant lieu de facture certifiée. Ces documents, une fois présentés, même s'ils ne sont pas des factures certifiées, tiennent lieu de facture certifiée.
Partie magazine de ce journal, dans le cadre des réformes à la Direction générale des impôts, la facture certifiée est introduite pour remplacer celle qui est classique. Qu'est-ce qui va changer entre l'ancienne et la nouvelle facture? Notre reporter Olivier Assogbavi est allé à la rencontre des acteurs concernés par la réforme, suivant son reportage.
Selon la loi nigérienne, tout assujetti qui livre des biens ou fournit des services pour les besoins d'un autre assujetti ou d'un consommateur ordinaire est tenu dorénavant de délivrer une facture électronique. Cette disposition impose alors aux contribuables l'utilisation d'une facture certifiée. Abdoulaziz Soulé travaille dans une start-up homologuée pour la fourniture des factures certifiées. Il nous explique la particularité de celle-ci.
Cette notion donc de facture certifiée, elle permet, lorsque moi, je fais un achat auprès d'une entreprise, de pouvoir disposer d'une facture qui aura un QR code et un certain nombre de codes qui sont générés par un ensemble d'algorithmes informatiques qui disent que cette facture est légitime, valable et viable, qu'elle me permet, moi, de pouvoir la déclarer comme charge, qu'elle me permet de pouvoir déclarer ma TVA et plus tard de pouvoir la déduire.
Pour Seydou Soulé, économiste et aussi opérateur économique, cette réforme implique des coûts supplémentaires. Par conséquent, il faut alors une incitation à l'endroit des petites et moyennes entreprises.
Vous voulez créer une dépense dans une entreprise, il faut des mesures incitatives par rapport aux achats. Toutes les petites entreprises, tous les jeunes entreprises souvent s'en sortent parce que pour acheter, ils achètent de manière optimale. Ils vont aller chez les gars qui vendent les moins chers. Si aujourd'hui, pour acheter un mobilier de bureau, il y a des entreprises de mobilier de bureau, mais il y a aussi Karam Karam, il y a Katako. Les gens de Katako et de Karam Karam qui font de la menuiserie, qui font des jolis bureaux, c'est des agents économiques. L'État ne leur a pas interdit d'exercer le commerce. Si une jeune entreprise va acheter là-bas et que ce monsieur n'a pas de facture certifiée, pourquoi on va rejeter la facture ou le reçu qu'il aura émis? C'est ça qui est le problème.
Certains opérateurs économiques estiment que l'introduction de la facture certifiée a été rapide. C'est le cas de Youssouf Magaji, jeune entrepreneur rencontré devant son entreprise.
Si j'ai bonne mémoire, cette loi, ou je ne sais pas, c'est des règles, a été légalisée, je pense, le 19 août dernier et a pris effet déjà le 1er septembre. Le délai est très court pour nous qui ne sommes pas vraiment à pied de cheval pour pouvoir supporter ces coûts-là. Il devrait peut-être donner un temps de 3 mois ou je ne sais pas, en tout cas un temps vraiment convenable à tous pour que les gens puissent acquérir de l'appareil à défaut de l'offrir aux gens.
Cette réforme fiscale n'est pas une nouvelle taxe ou encore de nouveaux impôts, a assuré le ministre des Finances lors d'une rencontre avec les acteurs économiques.
Hits with the beat.
Et c'est la fin de ce journal. À suivre le forum sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022 au Niger. Présentation Michel Deji.